Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Dans un fauteuil pour deux aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur Chabi Molia pour son troisième film, Comme des Rois, avec Cadmerade, Cassémot et Klein, Sylvie Testu, entre autres, un film aigre doux qui nous plonge dans l'histoire d'un père de famille, comme beaucoup de pères de famille, qui fait tout pour joindre les deux bouts, même si parfois il faut dépasser certaines limites. C'est drôle, c'est poignant, porté par le duo, un très beau duo, Cadmerade et Cassémot et Klein. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce.
Non, Michel, mais je vais pas y arriver, moi, une semaine Donne-moi un mois.
Non.
Marie qui m'a parlé d'un truc, c'est un truc facile qu'on pourrait faire.
Non, mais arrête.
Non, mais de toute façon, je peux pas. Je vous ai dit, hein, 70 euros, c'est trop cher.
Attendez, pour trois bouteilles grand cru classé.
Oui, on peut savoir ce que vous faites là? Le coup du vin à prix cassé, c'est ça? Vous avez une carte professionnelle? Ah oui, très bien, je connais. Non, c'est des gens sérieux, ça. C'est quoi comme vin? Ah oui, Saint-Émilion 2007, c'est bien ça, non? Moi, je vous les prends, moi.
Attendez. Je vais vous les prendre.
Ouais, tu vas faire du mouton Rothschild. Un tiers de Cahors, un tiers de Bulawayo. Pour le dernier tiers, tu mets moitié Pinot, moitié Sidi Ibrahim.
C'est trop dangereux ce que tu lui fais faire.
En 6 jours, on va être tous à la rue. Putain, mais tu te mets dans le crâne, ça, ou non, Mika?
Chabi Molia, bonjour.
Bonjour.
Alors, certains vous connaissent déjà soit par vos livres, soit par vos deux premiers films, mais d'autres vont vous découvrir avec Comme des Rois. Alors, prenons, si vous voulez bien, quelques minutes pour parler de vous. Comment vous êtes passé de la littérature à la réalisation?
Ça s'est fait très progressivement. J'ai été d'abord invité à écrire des scénarios. Voilà, ma sœur faisait l'école de la Fémis et elle avait envie que je l'aide, voilà. Et quand vous commencez à écrire des scénarios, au fond, vous êtes déjà en train de penser à la mise en scène parce que vous imaginez déjà des manières dont les acteurs vont dire certaines phrases, la manière dont peut-être la caméra va filmer certaines scènes. Et j'ai eu, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi rester au milieu du gué? Pourquoi transmettre ce texte à un metteur en scène? J'ai eu envie de traverser la rivière. Donc j'ai commencé comme ça, par des courts-métrages. Et j'ai eu, sur mon premier court-métrage, vraiment un coup de foudre avec ce métier. J'ai le souvenir que je pouvais plus dormir la première nuit suivant le premier jour du tournage parce que j'aimais ça, j'aimais la direction d'acteur, j'aimais réfléchir à un cadre. J'ai senti que j'avais envie de faire ça, donc j'ai continué.
Alors, donc c'est avec ces courts-métrages, est-ce que du coup c'est en fabriquant qu'on devient artisan du cinéma?
Pour moi oui, parce que j'ai vraiment pas fait d'école. Je dirais que mon école ça a été le roman. Le roman, c'est quand même déjà saisir des personnages et raconter un parcours. Donc j'avais peut-être une expérience de narrateur, mais mon expérience de cinéma, c'était l'expérience d'un spectateur, de quelqu'un qui aime certains films et qui se demande pourquoi il les aime, qu'est-ce qu'il pourrait faire de cette manière-là, qu'est-ce qu'il peut trouver de différent. Voilà, mais j'ai vraiment appris sur le tas, oui.
Comme des Rois, c'est le troisième. Et il est né comment, celui-là?
Il est né... Le vrai point de départ, c'est que je crois que j'ai un tempérament à me faire arnaquer, parce que je suis crédule, j'aime bien qu'on me raconte des bonnes histoires, et un arnaqueur arrive toujours avec une belle histoire à vous raconter. Donc un jour, dans un train, comme ça, je me suis fait délester de 20 euros, c'est pas grand-chose, par un type qui a eu beaucoup de mal à me les extorquer, j'étais très méfiant. J'ai pensé à sa vie après. J'étais dans le train et je...
Mais il vous a raconté quoi?
Oh, c'était une histoire très compliquée de billets de train à acheter. Enfin, toutes les... Justement, l'histoire était très embrouillée, mais il avait beaucoup de ressources pour broder autour. J'ai même fini par lui dire, je sens que vous allez jamais remonter dans ce train. Laissez-moi votre manteau. Il avait dû voler son manteau. Il m'a dit, oh, voilà. Donc, j'ai fini par... Il n'est jamais réapparu, mais j'ai gardé son manteau quelques heures. Et j'ai pensé à sa vie. Je me suis dit, mais ce type-là, ce matin, il s'est lavé les dents. Il a dit à sa femme, bon, moi, je vais aller gare Montparnasse. J'espère trouver un bon pigeon. Et puis, le soir, il est peut-être rentré en disant, ouais, aujourd'hui c'était un peu difficile, les gens ils se méfient de plus en plus, puis en France il y a de moins en moins d'argent. Enfin voilà, je suis au fond, c'est un métier qu'on réprouve, mais c'est un métier. Et cette idée d'un petit artisan qui voudrait transmettre son savoir-faire peut-être à son fils, comme certains artisans, voilà. Et c'est développé dans mon esprit, et de là est né ce duo père-fils qui fait des arnaques au porte-à-porte.
Alors, pour ce troisième film, est-ce qu'on se sent un peu plus avec de la pression?
Oui, le troisième film, il y a une pression. Le premier film, vous le faites un peu sur un coup de tête, sur un coup de chance. Le deuxième film, au fond, c'est souvent prendre position par rapport au premier, et souvent c'est l'envie de faire complètement autre chose. On fait un deuxième film parfois contre le premier, et le troisième, alors là, c'est les affres métaphysiques de dire, mais en fait, quel cinéma j'ai envie de faire. Je me suis posé la question pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois. Ça m'a mené nulle part. Et j'ai juste décidé de faire un film. Voilà, ce troisième film qui renoue avec le ton doux amer et la veine sociale du premier, mais qui est pas en même temps une profession de foi. Je sais pas si mes prochains films seront comme ça. J'ai juste arrêté de me poser cette question qui est trop vertigineuse, de se dire mais quel est le sens de mon œuvre, quel est mon cinéma. Vous voyez, ces questions qui sont écrasantes et qui aident pas à avancer.
Alors Julie Gayet, Denis Podalydès, Mathieu Demy, dans vos premiers films, vous vous entourez déjà de super comédiens, et pour Comme des rois, bah c'est encore le cas. Vous avez tout de suite pensé à casser Motéclin et à Cadmerade, ou encore même à Sylvie Testu?
Non, ça s'est fait par tâtonnement. C'est souvent comme ça un casting. J'ai eu une sorte de signal d'alarme qui était de me dire le père est un escroc, c'est un père qui est un peu étouffant pour son fils. Donc c'est un personnage qui a une forme de noirceur, et en même temps j'ai pas envie que ce soit un salopard, j'ai pas envie qu'on le déteste, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là binaire, un méchant, un gentil. Donc j'ai cherché un comédien qui allait, quoi qu'il arrive, sauver le personnage, qui allait vous le faire aimer, qui allait annuler la distance qu'on peut avoir par rapport à un type qui franchit la ligne de la loi. Et Cadmerade, il a cette faculté. Voilà, Cadmerade, je l'ai vu dans Baron Noir, et ça a été une évidence. Il y joue un politicien véreux, et en même temps, il est le protagoniste de la série. On l'aime, on a envie qu'il réussisse. On est en empathie avec lui. Et je crois qu'il a ce talent-là, quoi, finalement, que peu de comédiens ont en France quand on y réfléchit, qui est que vous le voyez à l'écran, vous êtes avec lui. Voilà. Et par ailleurs, c'est un comédien qui peut jouer énormément de choses, qui longtemps a été perçu simplement comme un amuseur public, parce qu'il est très drôle, mais qui a aussi une vraie densité humaine qui fait que quand il met de l'émotion dans un rôle, c'est pas fabriqué, c'est très direct, c'est très simple. Et ça, j'ai vraiment, j'ai adoré sa présence sur le plateau. Et puis pour Casey, je cherchais un comédien pareil qui est la capacité finalement à tout jouer, parce que l'adolescent dont je parle, c'est à la fois encore un enfant, c'est encore un fils qui est soumis à son père, donc il y a une partie d'enfance, il y a une fragilité, il y a quelque chose d'un peu lunaire dans le personnage qu'il faut absolument trouver, et en même temps c'est quelqu'un qui veut s'affranchir, qui rêve d'une autre vie, qui rêve d'échapper à son père, et Casey, il avait aussi cette énergie-là. Il avait cette rébellion-là. Et donc, il a composé un personnage qui, à mon sens, est d'ailleurs plus intéressant que dans le scénario, parce que plus riche, quoi, avec plus d'énergie, plus de violence aussi.
Mais du coup, vous les poussez assez loin, tous les deux.
Je sais pas si je les pousse. Moi, je suis un directeur d'acteurs très... j'épuise pas mes comédiens, mais c'est vrai que... On cherche, quoi. C'est-à-dire, le plateau, c'est vraiment un laboratoire où on se donne le temps d'essayer plein de choses. Quand vous avez des comédiens de ce talent, dès la deuxième ou la troisième prise qu'ils font, c'est déjà très bien. Mais vous avez du temps encore, 5 prises, 6 prises, 7 prises, pour essayer autre chose. Et les comédiens qui aiment vraiment leur métier, c'est ça qui les intéresse, c'est d'aller chercher des choses. Je me souviens que souvent, je donnais une consigne de jeu à Cad et il me disait, c'est difficile ce que tu me demandes, mais je vais essayer. C'est difficile, mais je vais essayer. Et je sentais l'envie, voilà, l'envie d'essayer d'aller un peu plus loin.
Et alors du coup, que ce soit Cassie ou que ce soit Cad ou même Sylvie, c'est venu à l'écriture ou c'est venu, tiens, pendant l'écriture, il y a eu un flash, tiens, mais ça peut être que Cad, mon Joseph, ou c'est venu après?
Non, c'est venu après. C'est venu. J'ai pas écrit le scénario pour eux. C'est plutôt venu une fois que le scénario était là, qu'il était lu, que dans cette lecture, je sentais des réflexions, une inquiétude par rapport au personnage de l'escroc, en se disant est-ce qu'on va pouvoir l'aimer. Que là, je me suis mis à chercher des acteurs qui pouvaient m'aider à défendre l'idée que j'avais des personnages. Sylvie Testu, c'est pareil. J'avais envie de quelqu'un d'âpre, d'hyper authentique, et Sylvie a ça. C'est pas une actrice qui fait attention à son maquillage et à sa mise en pli. C'est une actrice qui a envie d'un rôle, qui a envie d'une écriture, et qui, quand elle est là, elle est là pour servir une histoire. Elle est pas là pour son narcissisme.
Chabi, qu'est-ce qui a été le plus enivrant pour vous lors du tournage?
Le plus enivrant, c'est d'avoir réussi à alléger tellement ma méthode de tournage. Donc, j'ai travaillé avec une équipe réduite. On est caméra à l'épaule. Ça veut dire que on est très vite prêt à tourner. Et le plaisir de ça, ça a été que ça m'a donné encore plus de temps que sur mes précédents films, alors que mon temps de tournage était moindre. J'ai tourné en 6 semaines. J'ai l'impression d'avoir eu plus de temps pour travailler avec les comédiens. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait de la technique, non pas un obstacle. Parfois, la technique, si vous voulez, quand vous faites un tournage, ça vous prend tellement l'esprit qu'il n'y a plus de temps pour les comédiens. Et quand vous avez des bons comédiens, vous leur dites, ah, ben, c'est pas mal ce que tu fais, allez, on fait la suite. Et là, ça a été le plaisir de me dire, on a vraiment du temps pour chercher. Et ce temps de recherche, c'est quelque chose pourquoi il faut se battre quand on fait du cinéma.
Cadmerade donc joue Joseph, ce père de famille qui a créé sa petite entreprise d'escroquerie, comme vous l'avez dit. Est-ce que la vie est une escroquerie?
En tout cas, la vie, je crois, on est tous un peu des personnages de fiction. On est tous un peu en train d'inventer nos vies. Si vous avez un compte Facebook, vous êtes un escroc. C'est-à-dire, vous faites croire à tous vos amis que tout va bien, que vous allez de paysage magnifique en paysage magnifique. On est tous un peu pris dans des rôles sociaux. Et le petit escroc, lui, la particularité, c'est que c'est son métier. Il a un savoir-faire là-dedans. Il est très bon pour mentir. Mais le problème, ça va être de se dire, mais où est-ce que je mets la limite? À qui est-ce que j'arrête de mentir? Le père, Joseph, il n'y a pas de limite. On peut mentir à tout le monde. Le fils, Mika, il voudrait mettre des limites. Il y a des gens à qui il veut pas mentir. Notamment les gens qu'il aime. Quand il rencontre une jeune fille, il se dit que la seule manière dont il peut l'aimer, c'est d'arrêter de lui mentir. Quitte à mettre en danger la relation, mais il faut dire la vérité et il faut avoir ce courage-là.
Tiens, j'ai récupéré une guitare électrique. Faut que tu trouves un acheteur pour 500 balles, pas moins. Tu peux attaquer ça dès demain.
Ouais.
Et sur la vente, tu récupères 30 euros pour toi.
Ah mais non, t'inquiète. Hein.
Ah non, ça c'est important. Hein. Tu bosses, tu gagnes. Hein. Tiens, viens voir. Regarde ce que j'ai trouvé. T'auras plus besoin de prendre le bus. Regarde. En super état, d'ailleurs, j'ai changé de dérailleur, puis il y a une selle en semi-cuir. J'ai trouvé ça dans le box de Martinez.
Merci.
En échange, par contre, je lui ai dit que tu la prendrais à servir l'internet. Hein? Bon, il n'y a rien qui presse, hein?
Comme des rois, donc c'est un doux mélange entre l'humour de certaines situations d'arnaque et la dureté de la vie. Comment vous avez réussi à faire cet équilibre?
Mais déjà, donc juste avant ce film, Arte m'a proposé de faire un documentaire que j'ai tourné avec ma sœur Agnès pendant un peu plus d'un an dans un quartier assez difficile d'Aubervilliers. Et j'y allais, moi je connaissais pas bien les quartiers populaires, donc j'y allais pétri de clichés sur la banlieue. Je m'attendais à trouver Grozny. Je m'attendais à trouver une zone de désespérance, la misère absolue, etc. C'est pas du tout ça que j'ai trouvé. Et pour reprendre votre expression, j'ai trouvé un doux mélange. C'est-à-dire, j'ai trouvé des situations d'extrême précarité, mais j'ai trouvé des gens qui avaient la niaque, j'ai trouvé de la tchatche, j'ai trouvé des gens qui avaient envie de sortir du quartier, qui avaient envie de s'inventer une autre vie. Donc, j'ai pu faire ce film aussi avec la conviction que si j'ai envie de mélanger le drame et la comédie, c'est parce que la vie elle-même ne cesse de mélanger le drame et la comédie, même dans les situations qui, vues de loin, semblent les plus désespérées.
Avec la légèreté et l'humour, on peut tout dire.
Moi, en tout cas, c'est j'en ai vraiment le besoin. Je crois pas. En tout cas, je me sens pas du tout les moyens. J'ai pas les moyens pour l'instant de faire un film dramatique, sombre. J'ai l'impression de, comme si justement là, c'était moi l'escroc. C'est comme si je me mettais dans un rôle solennel, comme ça. Moi, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin d'humour. Je sais que quand il m'arrive une catastrophe dans la journée, je sais pas, quand je suis en panne sur l'autoroute, je me dis ouais, mais au moins quand je vais le raconter à mes copains, ce sera marrant. Voilà. Et c'est ça qui me sauve. J'ai eu envie de sauver aussi mes personnages comme ça.
En tout cas, c'est un film lumineux. On a aussi envie de les sauver quand on les voit, quand on découvre le film. Il y a aussi la BO. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle était toujours positive malgré toutes les galères que les personnages pouvaient avoir tout au long de l'histoire. Il y a une solution si on reste unis.
Déjà, j'aimerais vous parler de cette BO parce que il se trouve que c'est une BO qui a été réalisée par un artiste américain qui vit au Japon que je n'ai jamais rencontré. Donc, j'ai entendu les compositions sur Spotify et un beau jour, on lui a appelé pour lui dire « Est-ce que tu voudrais faire la bande originale du film ?» Et il y avait chez lui une poésie, une lumière qui, pour moi, était importante pour amener du contraste par rapport à des... Voilà, je filme des paysages qui sont un peu durs, hein, les grands ensembles, les zones industrielles, les hypermarchés, c'est pas les paysages les plus riants. Mais j'avais envie d'accompagner mes personnages avec une musique qui amène toujours ce rayon de légèreté, cette lumière au-dessus d'eux. Et c'est donc Sean qui m'a amené ça et que je vais rencontrer dans quelques heures pour l'avant-première à Paris. Donc on va enfin se rencontrer et on a une collaboration merveilleuse, mais uniquement par mail.
Que par mail.
Voilà, parce que moi j'aime bien écrire, je suis écrivain, donc j'aime bien écrire pour donner des consignes de ce que je cherche. Et puis après, il y a peut-être une forme de pudeur qui s'est installée, qui fait que on s'était tellement écrit qu'on n'allait pas se parler. Et donc on a eu cette relation pendant 6 mois et on va enfin se rencontrer là tout à l'heure. Peut-être qu'on s'entendra pas du tout d'ailleurs, mais j'ai trouvé un artiste formidable, très à l'écoute, capable de composer plein de choses différentes, plein d'humeurs différentes qui correspondent aux intentions du film.
Mais il est lumineux par sa musique, mais aussi la lumière que vous avez choisie. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, c'est mon ressenti. Je me trompe ?
Non, j'avais. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé cette lumière et notamment des contrastes de lumière. Il y a des nuits qui sont très sombres, qui sont inquiétantes parce que les personnages sont appelés à faire des choses inquiétantes la nuit. Mais c'est un film de contraste. C'est un film où il y a des comme dans une forêt, vous avez parfois des trouées de lumière. Et moi, j'avais envie que dans le film, il y ait des trouées de lumière. Donc il y a des décors qui s'y prêtent. Il y a des rencontres qui s'y prêtent. Voilà. Et c'est ce contraste-là qu'avec mon chef opérateur, on a voulu organiser tout au long du film.
Ces contrastes aussi, ces trouées de lumière, c'est un peu l'espoir que vous le donnez dans ce film?
Oui, c'est-à-dire, c'est à l'image de ce titre, Comme des rois, ça vient d'une phrase qui n'a jamais été prononcée dans le film, où le personnage que joue Kat dit « Tu verras, on va faire ça et après on sera comme des rois ». Et ce sont ces personnages qui imaginent toujours que ça peut aller mieux. Et ben, comme ils sont comme ça, mon film leur ressemble. Mon film n'est pas un film sur une espèce d'horizon bouché. Il y a toujours, même si c'est des bras cassés, on ne sait pas vraiment s'ils vont s'en sortir, ça ne se terminera pas par un grand happy end incroyable, invraisemblable. Mais il y a chez eux une envie effrénée d'aller vers la lumière.
Et comme on parle de réplique, quelle est votre meilleure réplique?
Oh, comme ça, au débeauté, est-ce que je vais trouver? Je sais pas. Je sais que celle qui me touche le plus, c'est la dernière. Voilà, je peux pas en dire plus, mais j'ai trouvé qu'elle était très difficile à jouer et je suis vraiment heureux d'avoir eu Cadmerad pour la dire.
Alors moi je peux en dire une qui va pas spoiler quoi que ce soit. Elle est dans la bande-annonce. Faire le guignol au théâtre, c'est mieux qu'une vie de petit escroc.
Oui, c'est sûr que le père, pour lui, que son fils veuille monter sur scène, c'est inimaginable. Donc il lui dit, je te vois pas du tout là-dedans, faire le guignol avec du maquillage et tout. Et son fils le reprend de voler et lui dit parce que, ouais, je sais pas, mais en tout cas c'est peut-être mieux qu'une vie de petit escroc. Et Kat va dire, c'est comme ça que tu me vois. Et son fils ne répond pas.
En tout cas, on va aller découvrir ce film dans les salles de cinéma. Si vous deviez dire à une amie, va voir le film parce que...
Oh, je sais pas. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, vas-y, si tu veux voir les quartiers populaires autrement que quand on les montre à la télévision et que les voitures brûlent.
Allez, un petit souvenir de tournage avec toute votre équipe.
Oh, moi, une chose à laquelle je pense, on a eu très très froid en faisant ce tournage. C'était il y a un peu plus d'un an. L'hiver était rigoureux et j'ai un souvenir de Cadmerad dans sa propre voiture en train de se changer entre deux scènes sur un parking d'hypermarché. Et là, quand vous voyez ça, vous vous dites, j'ai vraiment de la chance qu'il y ait encore des comédiens de cette envergure-là qui soient prêts à tout pour jouer dans un film.
Merci Chabib, bravo. C'était un très beau moment de cinéma et j'espère que le public sera touché par ce film comme des rois à voir absolument. Merci beaucoup, à bientôt sur Séance Radio.
Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.
Tu veux te remettre au boulot? Faut un partenaire. Toi et moi, ça roulerait bien, on ferait 50-50. Tu es en formation, là?
J'ai envie de continuer là-dedans, moi.
Ah ouais, c'est quoi ce que tu faisais, là?
J'avais besoin d'argent, c'est tout. Je vais peut-être faire ça.
Ah bah, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Et t'as d'autres projets, du coup?
Ouais.
Mais c'est quoi?
Je vais faire une école à Paris.
Une école? Une école de quoi?
Le théâtre, pour devenir acteur. Je commence là en septembre.
Et ils t'ont pris dans cette école?
Il faut que je passe une audition, là, bientôt.
Ah, bon, c'est pas encore fait, alors. Mais t'as envie de faire ça, toi?
Ah ouais, j'aime ça.
Mais t'es bon?
Je crois un peu.
Franchement, je te vois pas faire ça. Faire le guignol avec du maquillage et tout...
C'est mieux qu'une vie de petit escroc, non?
Parce que c'est comme ça que tu me vois, toi. Comme un petit escroc.
Les meilleures interviews de Séance Radio sont maintenant sur We Love Cinéma.